Daily Science.
Daily Science Podcast.
Patrick Samal, les dernières découvertes à Goyer montrent que cette grotte a été occupée à diverses époques, ça on le savait déjà, mais vos travaux mettent en lumière une certaine surprise, non ?
Mais disons qu'effectivement, Goyer est une des grottes connues en Belgique pour avoir été occupée à différents moments dans la préhistoire. On l'a retrouvée au niveau du matériel archéologique. Ici, l'étude a permis de définir différents ensembles anthropologiques qui, au niveau des datations, correspondent à ces occupations archéologiques. La grande nouveauté, c'est que malgré le fait que ce soit des ossements fragmentaires, mais aussi grâce au fait qu'ils aient été découverts il y a un siècle, mais oubliés et non étudiés parce que stockés avec les ossements de faune pendant donc, cette période, bien, ces ossements n'avaient pas été vernis et étaient donc parfaitement utilisables pour des études modernes, soit au niveau des analyses isotopiques pour la détermination de l'alimentation, pour les datations radiocarbone, donc la définition de l'âge, et pour l'étude de l'ADN. Et ce qui est tout à fait particulier à Goyer, c'est que l'ADN est extrêmement bien conservé, ce qui a permis donc, alors que l'ensemble de l'étude couvre 55 fossiles en Europe, eh bien 8 d'entre eux proviennent du site de Goyer.
Ce réexamen de ces fossiles vous montre que différents types de populations se sont croisés ou ont occupé successivement,
Et l'élément le plus surprenant, c'est que jusqu'à présent, on pensait que donc l'homme moderne sortait d'Afrique et que dans une première phase d'expansion hors d'Afrique, il allait coloniser l'Asie, en passant par le sud de l'Asie, et puis en revenant par le nord. Et c'est cette vague revenant du nord qui serait arrivée en Europe, à partir de 45 000 ans. Alors, on n'a pas de fossiles aussi anciens que ça, mais par contre, Goyer, qui représente pour 2 échantillons des fossiles de 35 000 ans, eux sont porteurs d'une variante génétique que l'on ne retrouve pas chez les Européens actuels et que l'on appelle l'haplogroupe M. Cet haplogroupe M est commun en Asie, il est commun en Océanie. Et donc, comment est-ce qu'on avait interprété cette différence ou cette absence en Europe ? C'était que justement, le peuplement de l'Europe ne s'était pas fait directement en sortant d'Afrique, mais qu'il y avait eu d'abord un parcours des hommes modernes par l'Asie avant un retour. Ici, la démonstration que des fossiles du paléolithique supérieur ancien en Europe sont porteurs de cet haplogroupe montre qu'en fait, une partie des hommes modernes sortis d'Afrique sont directement partis vers l'Europe et qu'après, ils ont été remplacés ou ils se sont mélangés avec une autre vague d'hommes modernes qui, elle, est bien revenue en fait, d'Asie comme on pensait auparavant et qui sont représentés à Goyer par le deuxième niveau, donc qui sont les ossements qui portent l'haplogroupe N, qui lui est apparu en Asie et qui est revenu en Europe et que l'on retrouve toujours en Europe. À partir de cet haplogroupe N est apparu l'haplogroupe U, que l'on retrouve dans le troisième ensemble de Goyer et qui en fait est un haplogroupe qui est toujours très commun parmi les Européens actuels.
Pour bien resituer les choses dans le temps, le M...
Le M, 35 000, le N, 26-28 et le U, 15 000. Ça, c'est à Goyer. Hein. Ailleurs, en Europe, on retrouve des M à 25 000 ans dans un autre site, donc à La Rochette, en France. Et donc, le scénario est de toute façon plus complexe que ce qu'on a pensé auparavant. Ce qui est important aussi, c'est que se poser la question, pourquoi est-ce que ce M est présent à 35 000 ans et qu'on ne le retrouve plus après ? Alors, l'hypothèse qui est envisagée, c'est qu'à différents moments, et probablement dû aux contraintes climatiques, il y a en fait une contraction de la population européenne qui se limite à ce moment-là à quelques milliers d'individus qui se réfugient dans des zones où le climat leur permet de survivre. Et à ce moment-là, par hasard, l'haplogroupe M a disparu lors de cette première contraction. Alors on pensait qu'il n'y avait qu'une seule contraction qui correspond au maximum glaciaire, donc entre 25 et 19 000 ans. Ce que l'étude révèle aussi, et là Goyer ne montre rien du tout, c'est que à la fin de la période glaciaire, donc on assiste à un premier réchauffement qui est suivi lui-même d'une courte mais intense période glaciaire et que justement à cette période-là, on retrouve une nouvelle contraction de la population européenne et apparition d'une nouvelle population qui est inconnue avant en Europe et dont on ne connaît pas très bien l'origine. Ça, c'est un des défis suivants. C'est pour cette période plus récente qui est souvent moins étudiée que que pour les périodes plus anciennes, eh bien, on a également un remplacement important du génome mitochondrial en Europe.
Vous êtes pas le seul scientifique impliqué, ni le seul centre
et pas,
scientifique
et
impliqué.
Des principaux,
vous disiez 55 échantillons étudiés, dont 7 ou 8 venant des collections ici belges. Et y a-t-il de grandes surprises dans les autres échantillons qui ont été étudiés?
Alors, non, en fait, les autres donnent les résultats qu'on trouve sur Goyet, mais à une plus grande échelle. Donc, effectivement, M est essentiellement trouvé à Goyer, il est trouvé sur un seul autre site. Donc si on n'avait pas inclus ces deux sites-là, on serait resté dans le schéma classique d'une sortie, d'une migration via l'Asie et un retour en Europe. Alors qu'effectivement, le fait qu'il y a trois fossiles qui présentent l'haplogroupe M démontre qu'il y a eu une migration directe aussi. Donc ça, c'est un des éléments majeurs. Et puis dans les autres, à Goyer, on n'a pas des fossiles de 8-7 000 ans, par exemple. Or, c'est à cette période-là que, justement, on peut mettre en évidence cette fameuse deuxième contraction qui a l'air d'être si importante dans le renouvellement du patrimoine génétique des populations européennes.
Merci Patrick Semaine.
Je vous en prie.